Décryptage, Marie Casadebé.
Les pailles en plastique devraient bientôt disparaître des cocktails des citoyens de l'Union européenne. Et ce n'est qu'un exemple. La Commission a publié en début de semaine une proposition de directive. Son objectif, réduire sensiblement l'utilisation des produits en plastique à usage unique au sein de l'Union. Ces produits sont responsables, avec les équipements de pêche abandonnés, de près de 70% des déchets marins en Europe. Le plastique sous forme d'emballage ou de contenants, il est partout, comme le constate ce commerçant grec qui a dû renoncer en début d'année aux sacs jetables.
Quand tu sors du supermarché et que tu as un chariot avec des choses et que toute la nourriture se trouve dans des emballages en plastique, tu les vides et tu les pèses. Tu te retrouves avec 4 kilos de plastique. Pourquoi ils nous embêtent avec les 1 gramme que pèsent les sacs plastiques? Il faudrait que tout le plastique disparaisse.
Alors, comment tourner le dos au plastique qui semble indispensable à notre quotidien? Quelles sont les alternatives et comment se fait-il que nos déchets se retrouvent en mer? Avec quels effets? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Laura Châtel.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG Zero Waste France, qui se traduit par zéro déchet. Et nous sommes aussi au téléphone avec Antidia Citores. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association Surf Rider France, association de protection des océans. Alors, à travers cette directive, la Commission européenne veut s'attaquer en priorité aux emballages et aux produits plastiques à usage unique. Laura Châtel, de quoi parle-t-on exactement?
Eh ben, on parle plutôt de produits du quotidien, hein, qu'on connaît bien, qui, en fait, ont une très, très courte durée de vie. On peut prendre un exemple qui est très récent. Quand je suis arrivée ici dans vos locaux, on m'a servi de l'eau dans un gobelet en plastique jetable. Donc, je l'ai utilisé une fois, à peu près une minute le temps de boire mon eau, et puis bah il part à la poubelle.
D'autres exemples, on parlait de la paille en plastique, c'est assez symbolique, ça aussi c'est un produit qui s'utilise, qui se jette presque dans la minute.
C'est ça, c'est des produits symboliques comme ça qui vraiment peuplent notre quotidien, en fait on en voit partout tout le temps. Ils sont pas forcément désirés d'ailleurs, par exemple une paille en plastique, quand on commande un jus de fruits, on ne demande pas forcément un jus de fruits avec une paille, mais ça nous arrive quand même chez nous, enfin dans nos maisons, dans nos sacs. Et donc, c'est des produits très, très présents et en même temps, voilà, très jetables.
Ça peut paraître anecdotique, mais Antidia Citores, est-ce que ce sont des déchets que vous avez retrouvés en grand nombre sur les plages, notamment lorsque votre association a organisé une campagne de ramassage fin 2016?
Alors, Surf Rider Europe organise tout au long de l'année des collectes de déchets en Europe, et les déchets que l'on retrouve le plus sont souvent des déchets liés soit à la consommation de tabac, donc des mégots, soit des déchets emballage alimentaire. Alors d'abord, emballage de boissons, bouteilles plastiques, bouchons, emballage alimentaire, chips et autres. Et puis, on retrouve énormément de microplastiques. On les voit un peu moins, mais ce sont des fragments de ces premiers déchets de notre consommation quotidienne qui vont par la suite avoir des effets sur la biodiversité et à terme parfois se retrouver dans nos assiettes.
Antidia Citores, vous avez évoqué les filtres à cigarettes. Ils sont aussi évoqués dans cette directive européenne?
Tout à fait, les filtres à cigarettes sont visés par cette législation. Il faut savoir que c'est le déchet que l'on retrouve le plus, et il pourrait être assujetti à la fois à des mesures de REP, comme on dit, donc des incitations, on va dire, fiscales pour inclure dans le prix de ces mégots des moyens pour les retraités, mais aussi être sujet à des mesures visant à sensibiliser le consommateur. Peut-être que, comme on voit actuellement, fumez-tu sur certains paquets, on pourrait dire aussi les filtres à cigarettes tuent les espèces de biodiversité prochainement sur les paquets.
Alors, si on reprend juste l'exemple de la campagne de ramassage, par exemple, fin 2016, avec quelques données sur plus d'un millier de kilomètres donc nettoyés, votre association, vos bénévoles ont trouvé plus de 41 000 cotons-tiges, soit 35 fois la taille de Big Ben à Londres, si on les met bout à bout. Laura Châtel, quelle quantité de ces produits à usage unique est utilisée chaque année? Est-ce que vous avez quelques données, peut-être en France, hein, puisque vous vous occupez de l'association pour la France?
Alors, en termes de quantité, on n'a pas beaucoup de données. Par contre, ce qu'on connaît mieux, c'est la quantité de déchets plastiques qui sont sont produits par an. Et rien que pour la France, c'est 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année qui sont produits, dont 60% environ d'emballages, donc 2 millions de tonnes d'emballages plastiques à usage unique.
Et ce qui est frappant, c'est que depuis 50 ans, cette production, elle ne cesse de croître. On n'a pas trouvé mieux. Pour quelle raison, finalement, on se retrouve toujours avec plus de plastique, alors que je pense qu'aujourd'hui, on a conscience qu'il faudrait lui tourner le dos?
Une des raisons, c'est que le plastique est en fait assez peu cher. Hein. Le plastique, c'est un matériau qui est fabriqué à partir de matières fossiles, notamment du pétrole, du gaz ou encore du charbon en Chine. Et c'est une matière première qui aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, en tout cas pour les sujets qui nous concernent, est très peu chère, très facilement disponible. Et donc, bah, aujourd'hui, ça coûte rien de produire une paille en plastique ou un film plastique ou un paquet de chips. Et donc ça, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique presque un petit peu absurde où finalement, notre consommation de produits plastiques, elle est plus tellement justifiée par un besoin, mais simplement parce que, par le fait que c'est disponible très très facilement et de manière très importante.
Si finalement, les cours du pétrole venaient encore à exploser ou même le pétrole a manqué, on finirait peut-être par se poser la question.
Sans doute, on développerait plus rapidement des alternatives. La bonne nouvelle, c'est que il y a quand même une prise de conscience citoyenne qui répond un petit peu à cet enjeu-là. Et moi, j'ai bon espoir que même sans les cours du pétrole, on peut réussir à inverser la tendance par voilà une prise de conscience, des actions, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective.
Et on imagine que si la Commission européenne publie en ce moment cette directive, c'est qu'elle a des chances, en tout cas, d'être entendue, d'être acceptée. Alors, je disais en introduction, ces produits du quotidien avec les équipements de pêche abandonnés représentent plus de 70% des déchets marins en Europe. Agnès Rougier de RFI a suivi il y a quelques années une expédition de Tara, un voilier scientifique consacré à l'étude de la pollution du bassin méditerranéen par les déchets plastiques. Le bilan de l'une de ses expertes à bord, c'est que finalement, il y a des traces de toutes sortes de plastiques dans tout le bassin méditerranéen. Antidia Sitores, on va entendre Amanda Elino après donc 3 mois passés en mer.
Le plastique est présent partout, en plus ou moins grande quantité, mais il est présent sur toutes les régions qu'on a parcourues. Et après, on a vu clairement des zones plus riches que d'autres en microplastique. Là, sur le passage Grèce, canal de Corinthe, Athènes, on voit qu'il y a d'énormes différences entre les filets. En Grèce, devant Athènes, on a vu beaucoup, beaucoup de billes de polystyrène. On les reconnaît bien parce que ça fait vraiment des billes blanches collées les unes aux autres. Après, on avait beaucoup de macro-déchets, de gros morceaux de plastique quand même, surtout transparents. Et après, oui, on retrouve tous les plastiques de couleur, noir, orange, bleu, un arc-en-ciel de plastique.
Antidia Sitores de Surfrider France, comment ces déchets se retrouvent-ils dans les fleuves et les océans ?
Il faut savoir que la plupart des déchets que nous retrouvons dans le cadre de ces collectes viennent à peu près à 70-80% du continent. Donc par les fleuves, par nos mauvais gestes au quotidien et vont se retrouver dans le milieu. Seulement une vingtaine, tout dépend les régions, viennent du milieu marin, éventuellement du transport maritime. Donc ils se retrouvent parce qu'on va jeter notre mégot, notre papier par terre en ville. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une antenne par exemple très présente à Paris pour sensibiliser sur ces sujets-là. Voilà, Surfrider est présent à Paris mais aussi présent sur le littoral et tout au long de certains bassins grâce à un programme qui s'appelle Riverine Input, donc qui nous permet d'identifier les flux de déchets sur un bassin versant et voir à la fois des introductions de déchets par le citoyen mais aussi par des industries. Donc ça peut être des stations d'épuration qui laissent échapper parfois ce qu'on appelle les biomédias, donc c'est des petites particules rondes de plastique qui facilite l'épuration, donc ça c'est un point positif, mais qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent se retrouver dans le milieu. Et puis on retrouve aussi énormément de granulés de plastique, donc les granulés de plastique industriels, on est toutes petites billes, vous avez l'impression que vous marchez sur du sable, et en fait ce sont des billes de plastique qui sont à la base en fait de la génération des produits plastiques, et on en trouve également aussi bien dans les fleuves que sur le littoral. ce qui nous permet au travers de ce programme de monter des investigations et de retrouver à la source du problème pour justement fermer le robinet des déchets qui arrivent en Méditerranée, en Baltique, en Atlantique, autour de ces différents programmes.
Laura Châtel, est-ce que la forme du plastique, on a parlé beaucoup des pailles ou encore des cotons-tiges, est-ce que cette forme a une, est-ce que c'est une explication en soi pour expliquer pourquoi on les retrouve autant dans la nature? Est-ce qu'il y a un problème particulier de traitement de ces déchets-là?
Il y a deux problèmes, entre guillemets, avec le plastique. D'une part, les plastiques, en fait, sont très divers. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plastiques durs, des plastiques lourds, mais des plastiques aussi très légers, par exemple les films plastiques. Donc, il y a une grande diversité qui fait que c'est difficile d'organiser la collecte et notamment le tri pour recyclage de ces déchets plastiques. Et puis, la deuxième chose, c'est que, en effet, une partie de ces produits plastiques sont, en fait, très légers, très petits, par exemple les pailles ou les sacs plastiques. Et donc, c'est des déchets qui vont s'envoler très facilement. Donc même si on l'a mis dans la poubelle adéquate, il n'est pas exclu que ça s'envole un jour ou l'autre avant d'arriver dans une installation de traitement de déchets.
Alors je vous propose de remonter à bord du Tara, ce bateau qui est parti à la pêche au plastique en Méditerranée. François Galgani est son responsable scientifique.
Pour les microplastiques, le risque le plus important, c'est probablement le transport d'espèces. En fait, des centaines de milliards de microparticules à l'échelle de la Méditerranée, c'est autant de vecteurs de transport d'espèces qui se seraient fixés dessus. Si vous voulez, les espèces voyagent d'une zone à l'autre, depuis toujours en mer. Pendant des millions d'années, ça a été sur des objets naturels, des branches par exemple. Et puis, petit à petit, les bateaux donc, ont commencé à perturber un petit peu le transport de ces espèces. Et puis, depuis peu, la présence de ces grandes quantités de microparticules favorise largement leur dispersion. Disons que ça va partout.
Citores, on a beaucoup vu d'images de tortues, d'oiseaux dont on ouvrait l'estomac et l'on découvrait qu'ils avaient ingéré du plastique. On connaît moins cet aspect, le transport d'espèces. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des espèces végétales et animales qui se retrouvent dans des régions où elles n'ont rien à y faire?
Alors, il faut savoir que ces plastiques, ces microplastiques finissent par s'installer dans une sorte de soupe parfois et deviennent l'habitat de micro-organismes. Et puis, comme les mers et l'océan ne connaît pas de frontières, on va se retrouver avec des courants qui vont amener ces espèces dans d'autres endroits. Néanmoins, ça n'est pas la principale source de transport des espèces invasives. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que si on a un projet juste de nettoyage de l'océan avec un énorme aspirateur pour nettoyer ces continents de plastique, ben forcément, si on assure le plastique, on va aspirer de la biodiversité. Et il nous paraît plus intéressant d'agir en termes de prévention pour Surfrider Europe que de faire essentiellement du curatif en allant enlever ce plastique au milieu du Pacifique ou ailleurs.
Et ce constat alarmant du Forum économique mondial et de la Fondation Hélène MacArthur, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Alors, quelle solution? Laura Châtel, l'Association des producteurs européens de plastique, Plastique Europe, estime que ces déchets marins résultent plus particulièrement, je cite, du manque d'application de la législation liée à la gestion des déchets. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le problème, c'est surtout le problème des traitements de ces déchets.
Alors, pas complètement. Moi, j'ai coutume de dire, il y a 50% en effet du problème qui peut être réglé via la mise en place de systèmes de collecte, de tri et de recyclage un peu plus performants. Mais il y a aussi 50% des produits plastiques, et notamment des emballages qui sont mis sur le marché aujourd'hui par les adhérents de Plastique Europe, qui en fait ne sont tout simplement pas recyclables, avec parfois des messages qui portent un peu à confusion pour le consommateur sur quel tri il doit faire de ces emballages-là. Donc là, pour le coup, moi, j'aurais tendance à renvoyer la balle aussi aux metteurs sur le marché, aux entreprises qui produisent ces déchets plastiques, pour faire en sorte qu'ils le réduisent au minimum, et pour les plastiques qu'ils mettent sur le marché, de faire en sorte qu'ils soient recyclables.
Et justement, c'est aussi l'un des objectifs de la directive européenne. La Commission veut rendre l'industrie du plastique circulaire, ils disent, donc c'est-à-dire que d'ici 2030, tous les emballages plastiques soient recyclables. Ce n'est pas le cas aujourd'hui?
Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Comme je disais, il y a environ 50% et même un peu plus de 50% des emballages qui sont mis sur le marché aujourd'hui qui ne sont pas recyclables, soit parce que les additifs, les colorants qui les composent compliquent leur tri ou leur recyclage. Hein. Par exemple, une barquette de viande noire qui va être noire pour donner un aspect un peu luxueux à la viande, bah, c'est quelque chose qui va compliquer, voire empêcher le recyclage. Et puis, il y a des produits qui sont pas recyclables plutôt parce qu'en fait, ils sont produits en petite quantité, qui sont très légers, et donc ça coûterait beaucoup trop cher pour réunir tous ces déchets plastiques et pour pouvoir les recycler dans des conditions économiques et environnementales, parce qu'il faudrait les transporter sur de longues distances intéressantes.
Ça veut dire qu'on sait recycler, donc on pourrait très bien emballer nos produits, vous parlez de viande, avec des plastiques recyclables.
Alors, on sait recycler une partie des plastiques, donc c'est vrai qu'il y a un effort à faire sur l'amélioration de la recyclabilité. Après, on sait aussi s'en passer, en fait. Hein.
Alors voilà, parce que là aussi, l'ambition, hein, c'est évidemment qu'on en produise moins. Ça veut dire qu'il y a des bonnes alternatives. On pourrait se passer demain d'emballage plastique, surtout.
Voilà, exactement. Avec notre association Zero Waste France, on promeut justement beaucoup ces initiatives, ces alternatives, à la fois dans notre vie quotidienne. En fait, on peut assez facilement, par exemple, quand on va chercher des sushis dans son commerce du coin le soir, on peut descendre avec un Tupperware et proposer aux commerçants de nous servir directement dans notre emballage. Mine de rien, ça fait économiser autant d'emballages à usage unique. Et puis, à une échelle plus large, il y a par exemple beaucoup aujourd'hui d'épiceries 100% vrac qui se développe, donc qui se développe sur ce concept-là de ne proposer aucun emballage à usage unique. Et ça, on sait faire aujourd'hui sur, en fait, tout type de produit. Hein.
Alors, on peut éviter les emballages, mais est-ce qu'aussi on peut, l'industriel peut proposer un emballage écologique qui remplace le plastique?
Bien sûr, il y a des efforts à faire là-dessus. C'est-à-dire que le meilleur emballage écologique, c'est celui qui est réutilisable. Ça arrive encore. Par exemple, on a les brasseries qui peuvent proposer de la bière en bouteille de verre consignée que vous pouvez ramener et qui sera réutilisée, lavée. Ça existe encore en France, en Alsace, ça existe aussi en Allemagne beaucoup. Et puis après, on peut aussi améliorer la recyclabilité. Typiquement, un emballage en carton va pouvoir avoir moins d'impact parfois que le plastique. Donc on peut aussi travailler là-dessus. Un exemple très très simple que tout le monde connaîtra, c'est celui de l'emballage du sucre. Le sucre, c'est un produit quand même assez basique. On le connaît en emballage cartonné très fin en papier, mais on a développé aussi des emballages en plastique dur, les fameux grosse boîte rose, par exemple. Ça, c'est une catastrophe en termes d'impact environnemental. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on utilise du plastique pour ça.
Antidia Citores, quel est l'acteur le plus difficile à convaincre, à votre avis? C'est le consommateur ou l'industriel qui va compter aussi sur son emballage pour vendre?
En fait, c'est un cercle, comme on dit, c'est l'économie circulaire. Souvent, le consommateur est convaincu qu'il a la solution au bout des voies, j'ai envie de dire. Il a besoin parfois qu'on le sensibilise sur quelle solution pour lui au quotidien, penser à une alternative, prendre une gourde, réfléchir à son cabane. Donc, c'est plutôt prendre des bonnes habitudes, mais de base, le consommateur est plutôt convaincu. Le plus difficile à convaincre, à mon sens, c'est certains. Certains industriels qui n'ont pas envie de changer de logiciel, qui souhaitent rester sur l'usage unique, parce que nous sommes face à un problème d'usage par rapport à ce plastique. On le disait, il y a des plastiques qui sont réutilisables. Alors, autant on a des efforts de certains industriels qui sont prêts à remplacer, on l'a vu, les microbilles de plastique dans les cosmétiques par des billes de jojoba, et c'est sur le marché et ça a pu se faire. Il reste encore à la fois l'industriel à convaincre, et puis je pense que là, le législateur n'est plus à convaincre, puisqu'il est en train de réfléchir à des mesures. Il faut néanmoins, enfin je parle du législateur européen qui est une cible pour Surfrider Europe, reste encore certains États de l'Union européenne à convaincre d'en faire une bonne application, et ça c'est le deuxième problème.
Je vais juste demander
une bonne application.
Antidia Citores, je vais demander juste à Laura Châtel de conclure cette émission en quelques mots. Cette directive, si jamais elle passe les différentes étapes, est-ce qu'elle vous paraît un bon pas en avant pour qu'on se débarrasse des produits plastiques?
Oui, c'est un bon pas en avant, surtout dans le sens où c'est la première fois que l'Union européenne travaille à une législation qui vise avant tout la la réduction à la source, donc fermer le robinet. Et ça, c'est un signal qui est très intéressant.
Merci beaucoup Laura Châtel, responsable de plaidoyer pour l'ONG Zero Waste France, Antidia Citores de Surfrider France, merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Laurence Sarniguet, Emmanuel Sevin, Fabrice Violet à la réalisation. Émission à retrouver sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr. Tout de suite un point sur l'actualité.